There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Je répète souvent que l'alternance course-marche est une stratégie très efficace, et pour beaucoup de monde, même si elle dérange ceux qui veulent courir et pour qui marcher est une sorte de défaite ou une interdiction, parce qu'on leur a dit pendant des années qu'il ne fallait pas marcher quand on court. Cette stratégie s'impose même en trail. Cependant, pour que ce soit efficace, il faut probablement s'y préparer. Et la question de la semaine par Xavier est justement sur ce sujet de comment préparer un trail, notamment avec l'alternance course-marche. Mais je vais vous donner des conseils plus larges aussi sur l'alternance course-marche pour toutes les distances. Allez, c'est parti. Bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce conseil de Kilomètre 42. Vous savez, tous les samedis, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser. Osez vous lancer, préparez vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Je vais vous aider à vous transformer physiquement, mentalement, vous sentir en forme, plein d'énergie, en confiance pour vos défis et devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'alternance course-marche et notamment de la méthode Cyrano, parce que Xavier me demande si la méthode Cyrano est applicable sur un trail. La méthode Cyrano, c'est quoi? Eh bien, c'est l'alternance de la course et de la marche. Alors, on appelle ça la méthode Cyrano parce qu'elle avait été lancée par l'entraîneur français Jean-Marc Develle, dont le surnom était Cyrano. Et en fait, elle consistait, et elle consiste toujours à intercaler à intervalles réguliers des portions marchées, lorsqu'on marche comme ça, donc on court en marche, lors d'une course d'une longue durée, afin d'optimiser le confort et la performance. En fait, elle a été imaginée principalement pour des efforts type 100 km ou 24 heures, mais on peut l'appliquer sur semi-marathon, marathon. Notamment, moi je trouve que c'est un très bon moment sur les ravitaillements, et j'en reparlerai un petit peu plus loin. On la trouve aussi dans d'autres noms, notamment la fameuse méthode Run Walk Run de Jeff Galloway, qui est un entraîneur, qui était un athlète olympique, qui en a fait plusieurs livres, je les ai quasiment tous, donc je peux vous dire qu'il la détaille dans tous les cas, et en fait, dans de nombreux cas qui vont du débutant au coureur très évolué, c'est pour ça que ça va à beaucoup de gens, à part peut-être les grands athlètes qui veulent absolument battre des records. J'en ai déjà parlé régulièrement, car je le dis, je suis un adepte de ces méthodes-là, tant pour débuter que pour reprendre la course, notamment après une blessure, par exemple, une grande pause, mais aussi pour allonger les distances ou aller plus vite. Et ma conviction, vraiment, c'est que pour beaucoup de coureurs, l'alternance de course et de marche est une stratégie qui permet d'aller plus vite sur un grand nombre de distances, y compris d'ailleurs pour beaucoup de coureurs sur des distances comme le 5 km et le 10 km, qui sont pourtant des distances très rapides, mais qui sont pas si faciles que ça à gérer parce qu'on est très rapidement en surchauffe. On l'applique aussi assez bien sur le semi et sur le marathon. Jeff Galloway notamment donne des cas de marathon couru en moins de 2h30 en plaçant de la marche de manière stratégique. J'ai moi-même battu l'an dernier mon record sur semi-marathon de plusieurs minutes, mais même un bon temps, en marchant trois fois, donc ça m'a pas empêché de le faire en 1h39, et j'ai fait plusieurs 10 km en moins de 50 minutes en étant hors de forme, mais en plaçant de la course et de la marche. La dernière fois notamment, c'était en octobre, ou non, début novembre, pour le Movember, une course qui était de 10 km, où j'avais fait un départ sur 2-3 km où je courais, et ensuite je marchais 100 mètres tous les 900 mètres, et puis le dernier kilomètre à peu près, ou les deux derniers kilomètres en courant. Donc il y a des stratégies comme ça qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, je les explique dans mon programme pour courir plus vite, parce que oui, surprise, dans mon programme qui vous permet de courir plus vite, je parle de courir à la sensation, de découvrir ses sensations, mais aussi de cette stratégie-là pour battre des records sur des courses de différentes distances. Je le répète, c'est très intéressant, cette stratégie d'alternance course-marche, pour aller plus loin quand on veut allonger les distances, donc pour diminuer la fatigue ressentie, pour diminuer aussi l'échauffement du corps, au sens où, pas comme je parlais la semaine dernière, mais au sens où on n'arrive pas à refroidir, donc on transpire beaucoup. Et en fait, vous savez que bah, dès que le corps est un peu en surchauffe, hein, bah, on perd en performance. De même que on a besoin de s'hydrater, de s'alimenter. Eh ben, l'alimentation et l'hydratation en courant, c'est pas forcément toujours simple, hein, même si on a des solutions avec les camelbacks, avec les petits tuyaux et trucs comme ça. Les flasques, il faut s'habituer, hein, et dans certaines courses, par exemple, si vous prenez des ravitaillements sur des courses type un marathon, c'est quand même plus facile de se ravitailler si on vous tend un verre. C'est pas facile de boire au verre en courant. Voilà, donc il y a des moments comme ça où on peut se dire, bah, c'est peut-être plus intéressant de marcher. Et même manger, hein, y a des cas où finalement, c'est peut-être plus simple de prendre un temps pour marcher en mangeant plutôt que d'essayer de mâcher en courant. Et des fois, c'est pas si simple que ça. Ça dépend ce que l'on prend, bien entendu. Ça dépend de vos stratégies d'alimentation. Et mais ça, c'est un autre sujet. Je pense aussi que ça permet d'améliorer le plaisir. Parce que forcément, si on sent moins de fatigue, si on est moins essoufflé, si on est moins en surchauffe, eh ben on prend plus de plaisir. Et en plus, si on arrive à allonger les distances, qu'on profite plus de grand air et tout, bon, je trouve qu'il y a plein de bénéfices là-dedans. Et puis, c'est un dernier point qui est super intéressant. Pour moi, c'est que ça prévient la monotonie. En fait, on peut découper des très longues courses en blocs. Par exemple, des courses qui feraient... alors, on va pas reprendre le 24 heures ou quoi que ce soit, mais si vous voulez faire 20 km et que vous découpez en petits blocs comme ça, et que vous calculez un peu votre truc, vous pouvez vous dire, bah, au lieu de faire 20 km, je fais par exemple 10 blocs de 2 km. Et dans ces 10 blocs de 2 km, il y aurait par exemple, je sais pas moi, il y aurait 1,8 km couru, 200 mètres de marche par exemple. Bah, au lieu de compter 20 km comme ça, vous comptez les blocs en fait. Voilà, bon, ça peut être une astuce. En tout cas, moi je trouve que ça marche assez bien. Et c'est assez pratique de le faire comme ça. Maintenant, venons-en au cas du trail. Parce que le cas du trail, c'est un peu particulier. Là, je vous ai parlé finalement de format. Qui étaient quand même des formats route, hein, quand je parle 5, 10, semi, marathon et tout, on est quand même plutôt sur des formats route, y compris d'ailleurs le 100 km ou le 24 heures, hein, même s'il y a des 24 heures qui sont trail, franchement, on est plutôt sur des formats qui sont plutôt sur la route. Et vous savez, sur le format sur la route, en fait, c'est vrai qu'on est beaucoup l'œil sur le chrono, sur le temps qu'on fait, sur la moyenne au kilomètre. En trail, on n'est pas vraiment dans le même fonctionnement puisqu'on n'a pas le même rapport au temps, on a plutôt un rapport au terrain. Hein. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Et en fait, par principe, le trail conduit à l'alternance course-marche parce qu'il y a un point qui est vraiment très important, c'est que la montée gagne toujours. Il y a un moment donné, si la montée est raide, on finit par marcher. Donc, c'est plus efficace quand ça monte trop raide, quand ça monte pendant trop longtemps, de finir par marcher pour justement éviter que le cœur s'emballe, d'être vraiment, de puiser dans l'énergie pour arriver à monter, surtout qu'en fait on se rend compte que on ne monte pas plus vite en courant qu'en marchant. Et j'ai même fait l'expérience sur certains trails de doubler en marchant des gens qui essayaient de courir absolument. Et quand ils arrivent en haut, ce qui se passe, c'est qu'ils sont totalement grillés alors que nous, on peut repartir. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bah, on peut économiser l'énergie en montant en marchant, même si c'est assez vite. Ça permet d'éviter que le cœur s'emballe, ça permet de garder de l'énergie, et cette énergie, on en a besoin pour relancer sur le plat qui a juste après la montée, ou sur la descente qui a aussi juste après la montée, ou qui a entre les phases de montée et de descente. Je rappelle d'ailleurs que en trail, la descente est très exigeante, enfin en règle générale, mais que c'est là où on casse le plus de fibres. Hein. Donc là, c'est vraiment important. Mais là, il y a quand même une différence, parce que je dis oui, bah en trail, on fait finalement de l'alternance course-marche. Mais, je le répète, c'est que la méthode Cyrano et la méthode Run-Walk-Run, hein, qui sont finalement très semblables, hein, l'une que l'autre, elles sont très codifiées à l'origine. Et en fait, ce qui est codifié, c'est que par exemple, on va dire que sur 100 km, on fait 9 minutes 15 de course, 45 secondes de marche. Ça, c'est la méthode originale. 6 minutes de course et 1 minute de marche sur 24 heures. Là encore, méthode originale. Hein, vraiment, on est sur ce système-là. Vous pouvez trouver, hein, sur route votre méthode à vous, votre temps, votre codification à vous, autre. Mais en trail, on peut pas vraiment codifier ainsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le parcours qui va décider de l'alternance réelle le jour de la course ou lorsqu'on fait ses entraînements. Sur des trails qui sont très roulants, les montées sont parfois pas vraiment très compliquées. Il y a des montées, même j'ai vu sur des trails, qui étaient en fait, il y a un peu de dénivelé, mais pas beaucoup. Donc finalement, on peut les faire à petit trot et assez facilement. Sur d'autres trails, il peut y avoir une grosse montée bien raide. Et puis sur d'autres, il peut y avoir de la montée pendant 1, 2, 3 kilomètres. Ou sur certains trails alpestres, on pourrait imaginer qu'on va monter pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Voilà. Et donc c'est un peu idem pour les descentes. Hein. C'est qu'il y a des descentes sur certaines courses qui sont assez cool. Et puis d'autres qui sont moins cool. Il y en a qui sont très pentues, très techniques. Donc il y a vraiment des grosses variations. Et c'est vrai qu'en trail, on est moins fixé sur le temps qu'on va mettre au kilomètre. Moi, je me rappelle sur mon premier trail, on m'avait dit, bon, écoute, si tu fais du 9 km/h de moyenne, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça part plus vite, puis il y a des moments où on est presque à l'arrêt quand ça montait très raide. Il y a même des trails où on finit à quatre pattes dans la forêt, où là, j'ai plutôt souvenir d'avoir fait du 1 ou 2 km/h. Oui, véridique, 1 ou 2 km/h. Donc, ça, c'est vrai que cet aspect-là, hein, de jouer avec le terrain, fait que on peut pas codifier, hein, comme on le fait sur la méthode Cyrano, en disant, bah voilà, je fais 9 minutes 15 de course, 45 secondes de marche, etc. On peut pas codifier pareil parce que ce qui va jouer, c'est aussi le dénivelé où on se retrouve sur le parcours de la course. Et puis, bien entendu, vont aussi jouer des aspects comme la fatigue, qui peut être plus importante si le trail est long, si on est sur de l'ultra, par exemple. Bon, sans parler de la météo qui peut rendre les terrains très glissants, très boueux. On a tous vu des images où il y a des gens qui couraient dans la boue, qui glissaient sur les fesses. Bon, il y a tout un tas de caractéristiques du trail qu'on a moins finalement sur la route, parce que sur la route, ça peut être un peu glissant, mais de là trouver des grosses flaques de boue sur lesquelles on va glisser sur les fesses, c'est quand même beaucoup moins courant sur la route que sur du trail. Alors finalement, que faire avec tout ça? Eh ben, je pense qu'il faut garder en tête que l'entraînement en alternance course-marche est une valeur sûre pour énormément de gens, pour dire 90% des gens, voire peut-être même 100% des gens qui écoutent ce podcast, parce que mis à part des athlètes vraiment de très très bon niveau, l'alternance course-marche est une valeur sûre. Et vraiment, je le répète, ça permet de limiter la fatigue de l'entraînement, ça permet de limiter la fatigue de course aussi, mais à l'entraînement, c'est intéressant pour limiter la fatigue, hein, vraiment, pour faciliter la récupération, pour allonger les distances, pour augmenter le plaisir, pour faire que la sortie soit moins épuisante pendant, mais aussi qu'on ait moins d'épuisement mental avant, se dire ah, il faut que j'aille courir, il va falloir que je cours tant, etc., il y a du dénivelé, etc. Donc je trouve en fait que ça allège le poids de la sortie, à la fois avant mentalement, pendant, et puis aussi après, hein, ça limite la fatigue, on récupère mieux, parce que finalement on crée moins de fatigue musculaire, on puise moins dans les stocks d'énergie, et ça permet en fait de faire par exemple, si vous faites des sorties longues le dimanche matin et que vous voulez profiter un peu de la suite du dimanche et pas être crevé tout le dimanche après-midi, bah c'est pas mal, hein, par exemple, d'avoir une sortie qui est un peu plus facile à digérer, un peu plus facile à vivre. Et la faire en alternance course-marche est un moyen de le faire, même si vous préparez d'ailleurs un marathon. Je le dis très clairement, hein, parce que, je le répète, on peut préparer des marathons et des semis avec de l'alternance course-marche. Et je le répète, il y a des gens qui font des très beaux temps, j'ai fait des recherches, j'ai plein d'anecdotes. Je disais que Jeff Galloway annonce des marathoniens en moins de 2h30 sur avec de l'alternance course-marche. Mais il y a beaucoup de cas où quand j'ai fait mes recherches, hein, sur des forums, sur des sites, où il y avait des gens qui faisaient l'alternance course-marche, qui faisaient des marathons autour de en moins de 3h, on va dire, entre moins de 3h et 2h30. Il y en avait quand même un bon paquet. Alors, bien entendu, hein, ça dépend aussi du niveau, ça dépend aussi de la caractéristique, la capacité plutôt de sa vitesse de pointe, hein, quelle capacité on a à courir. Parce que pour faire un temps comme ça, c'est vrai que si on marche, eh ben, ça veut dire que la moyenne de course doit être plus élevée que notre moyenne, qu'une moyenne, hein, que si on courait tout le temps. Mais c'est un calcul qui se fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'entraîner en alternance course-marche, quel que soit d'ailleurs ce que vous faites comme type d'entraînement. Il faut s'entraîner en alternance course-marche si vous voulez en faire une stratégie. Et là, on en avait parlé avec Cécile Bertin. On en avait parlé parce que elle avait vécu, alors je sais plus si dans Sport Nutrition, dans Kimène 42, on en avait parlé, en disant que il y a eu des moments où elle était obligée de marcher, mais elle n'était pas préparée à ça. Et quand on n'est pas préparé, c'est un peu une défaite. Quand on dit je veux courir, je veux courir, je veux courir, et qu'on se retrouve à marcher parce qu'on n'en peut plus, c'est une défaite. Mais si on se prépare à marcher en se disant c'est une stratégie, finalement c'est une option. Soit une stratégie, soit une option. Mais on peut s'y préparer. Et comment on s'y prépare? On va se dire, je vais me faciliter le passage de l'un à l'autre. On va aussi essayer de tester quels sont les temps idéaux de marche et de course, ainsi que les allures. Par exemple, vous pourriez vouloir courir à la moyenne de 10 km/h. Si vous courez tout le temps, vous savez qu'il faut courir 6 minutes au kilomètre. Si vous voulez faire de l'alternance course-marche et avoir ces moyennes de 10 km/h, eh bien, il va falloir courir forcément plus rapidement que 10 km/h parce qu'en marchant, vous serez en dessous de la vitesse de 10 km/h. Mais donc ça, faut un petit peu le tester, de voir ce qui est confortable pour vous et autres. Donc à l'entraînement, vous devez le tester. Et puis l'entraînement, quand on s'entraîne sur du trail, on doit aussi essayer de reproduire certaines situations que l'on va vivre. C'est valable pour toutes les courses, mais encore plus pour le trail. Par exemple, on sait que on va faire un trail où il y aura beaucoup de montées. Bon, il va falloir trouver la bonne position pour marcher peut-être plus vite. Est-ce qu'on a droit au bâton? Est-ce qu'on utilise les bâtons? Comment marcher avec les bâtons? Comment les bâtons nous aident? Est-ce que avoir le sac? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange pendant ce temps-là, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut tester à l'entraînement. Vraiment, vraiment tester l'entraînement. Passer de la marche à la course, hein, vraiment, et vice-versa. Donc, s'entraîner, je marche, je cours, je marche. L'accélération, la décélération. Ce qui est souvent, d'ailleurs, pour beaucoup de gens, le plus dur, hein, en fait, c'est cette phase d'accélération et de décélération. C'est ce qu'ils trouvent généralement le plus fatigant. Pourquoi? Ben parce que quand on le fait pas, ben on n'a pas l'habitude. Et il faut savoir un truc, c'est que c'est dans l'accélération, dans la décélération, que on a le plus d'énergie qui est consommée. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le passage de l'alternance course-marche en fait est très fatigant et ne sert à rien parce que en fait ils n'ont pas habitué à faire une accélération, une décélération qui soit douce. Pour ça qu'il vaut mieux travailler sur de l'accélération, de la décélération et pas sur partir raccélérer à fond et freiner à fond parce que c'est ça qui fatigue. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut s'entraîner de passer de la marche à la course et vice versa. Mon constat aussi c'est qu'entre elles on peut avoir parfois des alternances qui sont très courtes. Par exemple, on peut avoir des cas où on a des espèces de faux plats, on peut avoir des montées qui ont des petits coups, ce que j'appellerais des petits coups de cul. Vous voyez, ça m'entraide et puis ça redevient un petit peu plat, ça fait des petits trucs, des variations de terrain qui sont assez logiques. Et donc, on peut se retrouver à un moment donné, on court un peu, on remarche, on recourt, on remarche. Et ça peut jouer, par exemple, sur de l'entre-deux, je trouve. On va courir quelques secondes, on va être entre-deux pendant quelques secondes, on va marcher encore quelques secondes, et puis ça va repartir et tout. On a toujours un petit peu ce petit jeu. Moi, je l'ai vu sur certains trails. Et alors, si vous venez en Auvergne, on a des espèces de toboggans, ça monte, ça descend et tout, ça s'arrête jamais. On a souvent ce truc-là, en fait, cet intermédiaire où on ne sait pas si on doit être dans la course, dans la marche, et on est un petit peu dans cet intermédiaire, c'est où on frôle, en fait, on est dans les limites, en fait. Il y a des vitesses dans lesquelles on a des limites entre 7 et 8 km heure. C'est un peu rapide pour marcher, mais c'est un peu lent pour vraiment courir. On est dans ces trucs un peu intermédiaires. Et donc, si sur certaines montées ou des faux plats, ils sont pas très pentus, on peut avoir ces trucs-là. Donc, c'est bien aussi d'avoir, de travailler ces vitesses intermédiaires, je trouve, à l'entraînement, de s'entraîner là-dessus, c'est aussi intéressant. Et puis, bien sûr, il faut se préparer au défi tel qu'il va être, et notamment, en se posant des questions sur quel est le profil de la course. Est-ce qu'il y a des grosses montées, des grandes descentes? Comment je vais les travailler? Est-ce qu'il y a des enchaînements? Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait vraiment essayer de travailler sur un enchaînement qu'on peut retrouver lors de ces défis trail. C'est pour ça que la plupart des trails, d'ailleurs, ils publient des profils de course. On voit s'il y a une grosse montée, une grosse descente. Je me rappelle, il y a eu des discussions, notamment dans la Science Running Club, où des profils de course, on voyait qu'en fait, le dénivelé sur une course était pas forcément très important, mais qu'à un moment, il y avait a priori une descente qui était très très raide. Ce qui veut dire que techniquement, cette descente-là, elle pouvait peut-être être un peu dangereuse, peut-être qu'elle demandait un peu d'entraînement, mais que aussi musculairement, elle pouvait aussi beaucoup fatiguer, parce que quand c'est raide, il faut retenir son corps. Donc, ça veut dire que ça se prépare, ça s'anticipe, et notamment, il y a un enchaînement que je trouve très intéressant à faire quand vous faites du trail. Généralement, quand on fait des séances de côte, vous savez, on fait la côte en courant, et puis on redescend en ayant tendance en plus plutôt à se reposer. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la descente, c'est ce qui fatigue le plus. Ça casse les jambes, ça casse les fibres, on a les muscles qui sont engorgés et tout, c'est super compliqué à gérer. Et donc, pour moi, l'intérêt de se préparer spécifiquement à repérer un petit peu les choses, ça serait de dire que les séances de côte, on va aussi les associer à des séances de descente. Et on pourrait très bien, et moi je l'ai déjà fait, monter en marchant tel qu'on le fait dans une course, c'est-à-dire en marchant vite, c'est-à-dire pas en marchant tout doucement, mais en marchant à un rythme assez sympa pour arriver à marcher et ne pas perdre trop de temps sur le délai qu'on veut tenir. Donc marcher assez vite. Et puis, quand on arrive en haut de la côte, au lieu de redescendre tout de suite, eh ben, s'il y a une partie plate, dessus on relance sur la partie plate pour travailler justement cette transformation de la marche vers la course et comme on le ferait le jour de la course. Et puis, après, on redescend à son point de départ, et là, on descend à fond, mais vraiment le plus vite possible, pour là, justement, travailler à la fois la sensation de vitesse, mais aussi cette casse musculaire qui va intervenir. Et c'est vrai qu'en descendant plus vite, eh ben, on va devoir retenir plus fort, il y a plus d'appui sur les jambes, et donc, ben, on s'entraîne, finalement, à faire des gros muscles, hein, j'ai envie de dire. Alors, je parle pas de gros muscles forcément en volume de jambes, même si chez certains ça peut être le cas, mais rassurez-vous les femmes, si vous avez peur de prendre des grosses cuisses, je parle plutôt, en fait, d'avoir des muscles qui sont capables, justement, de supporter ce type de descente, et ça, c'est vraiment un élément qui est important. Parce que, il y a un truc, quand même, que j'ai vécu, c'est que, quand on arrive en haut d'une descente et qu'on voit une grande descente et que quand on commence à descendre, ben soit on se crispe un petit peu, alors il peut y avoir la peur, il peut y avoir la fatigue, on n'arrive pas à descendre comme on veut, très frustrant, ouais, très 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 frustrant. Je me souviens encore de ce coureur qui m'avait doublé un jour dans la descente de Gergovie sur un trail. J'avais en plus vu au départ, on avait couru un peu au mieux en même temps, et puis sur la montée, ben j'ai fait partie de ma technique où j'étais monté en marchant, et puis lui il était loin derrière, et puis sur la dernière descente il m'a grillé. Et en fait, je l'ai entendu arriver de loin avec ses gros pas, avec bam, 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 des grosses chaussures bien amortissantes, avec une carrure un peu rugbyman d'ailleurs. Donc il descendait très très vite, impossible de le suivre. Moi j'avais les jambes qui étaient totalement en feu. En plus je courais en minimaliste, donc j'avais pas l'appui sous le talon pour pouvoir descendre aussi fort que lui. Et musculairement, j'ai pas tenu le choc. Et je l'ai vu partir loin, 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 sans jamais pouvoir le rattraper. Et je me rappelle aussi d'un épisode avec Johan Stuck, qui est pourtant un trailer de beau, très très bon niveau, qui a gagné des courses, qui disait qu'en fait, en descente, il était souvent frustré parce qu'il se faisait doubler dans les descentes. Et il y a un truc qui est vrai en trail et dans les compétitions, c'est que les trailers, en fait, ne gagnent pas les courses sur les montées, ou c'est très rare, en fait. Ils les perdent souvent sur... Et ils gagnent les courses souvent sur la partie plate et dans la descente. C'est-à-dire que là où on a des jambes pour relancer, pour tenir une vitesse élevée ou pour arriver à tenir le choc dans la descente quand le rythme est important. Voilà, donc c'est fait partie des apprentissages à avoir, hein, et on peut le faire à l'entraînement. Dernier conseil pour finir sur cet épisode, sur cette alternance course-marche. Souvent, les adeptes de la course et de la marche font vraiment varier les écarts, en fait, enfin le temps de marche et le temps de course. Et en fait, on se rend compte, hein, grosso modo, je vais vous donner des cadres, parce que au début, j'ai donné les cadres officiels tels que les créateurs de la méthode l'ont donné. Si vous prenez la méthode Run-Walk-Run, sur les débutants, on a des alternances qui sont des alternances d'apprentissage. Hein, on va avoir des 15 secondes de course, 15 secondes de marche. Mais quand on se prépare à des trails, on va changer un petit peu le temps qu'on peut avoir. On pourrait dire, par exemple, sur de l'entraînement, il faudrait peut-être tester des allures, enfin des temps de course par exemple qui seraient entre 6 et 19, 20 minutes à peu près. C'est généralement ce qu'on voit, hein, chez beaucoup des adeptes. Ça serait un peu ces temps de course 6 à 19 minutes, surtout sur des efforts longs, c'est-à-dire que faire du 30-30, non. Faire du 1 minute, 1 minute, c'est pas très efficace. Faire du 4 minutes, 1 minute, pourquoi pas. Mais 6 minutes, 7, 8 de course, ça commence à être pas mal. Et le temps de marche est plutôt compris entre 45 secondes et 1 minute. Hein, voilà. Et donc c'est la variation qui va se jouer. On pourrait très bien dire 19 minutes de course, 1 minute de marche, par exemple, sur de l'entraînement trail, sur des sorties longues, etc. Ce qui voudrait faire, par exemple, qu'une heure, on le découpe en 3 morceaux, 3 fois 20 minutes, hein, finalement. C'est pas mal, hein, pour découper le petit morceau. Donc si vous faites une sortie de 2 heures, par exemple, pour préparer un ultra, sur des week-end shocks et pour supporter les week-end shocks, si vous faites une sortie le samedi, une sortie le dimanche, enfin, ouais, il y a plein de stratégies. Si vous faites des sorties de 2-3 heures, bah, comme ça, vous pouvez avoir des temps, hein, faire varier les temps, ça peut être intéressant. Et un constat que je fais, c'est ne dépassez pas trop la minute, hein, sur route, car en fait, c'est difficile de repartir. Hein. Quand on marche plus d'une minute, c'est difficile de repartir. En plus, on se refroidit, ça dépend un petit peu le temps qu'il fait, mais s'il fait un peu frais, on se refroidit un peu trop. Je trouve, en fait, hein, en tout cas, que rester dans la minute maximum de marche, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester un petit peu, hein, il faut s'entraîner, un peu tester tout ça. Mais je répète, sur trail, en fait, ce qui va décider, c'est surtout le terrain. Hein, et aussi la fatigue aussi si le trail est assez long. Donc cette histoire de 1 minute, elle marche bien sur route parce que finalement, bah, on n'est pas trop contraint par le terrain, mis à part si on avait un parcours de route qui monte, qui descend beaucoup. Là, on peut changer un petit peu le calcul des choses. Sur trail, si ça monte pendant 10, 15 minutes ou une heure, et qu'il faut marcher pendant tout ce temps-là, on va le faire. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut s'entraîner à faire des montées. Et dans la condition où on peut le vivre le jour de la course, c'est-à-dire aussi de s'entraîner à monter en marchant vite et tout. Et puis, ne pas se fixer en fait un chrono parfait, un calque parfait comme l'a fait la méthode Cyrano, mais d'avoir une flexibilité. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que on va se dire que on va avoir un plan global. Hein, voilà, en général, on sait qu'on peut faire ça et tout. Ça peut très bien marcher en entraînement. Mais le conseil, c'est que quand vous connaissez votre course, vous préparez à l'avance, en fait, en repérant le profil de la course. Vous pouvez imaginer, selon le profil, les zones où vous êtes obligé de marcher, les zones où vous allez pouvoir courir, les zones où vous allez pouvoir relancer. Alors, en général, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de trails qui partent avec un petit peu de plat, puis après, ça monte. Donc, vous regardez un petit peu le dénivelé, comment c'est fait, et puis vous allez regarder s'il y a des zones qui sont plus plates, où est-ce qu'il y a des ravitaillements, à quel moment vous risquez d'y arriver, à quel moment vous voulez manger, vous voulez boire. Est-ce que vous allez plutôt manger sur les montées? Moi, c'est ce que je fais, hein. Je marche en montée, je mange. Donc, tout ça, vous pouvez l'imaginer. En récupérant le profil de la course ou du défi que vous voulez faire, vous regardez un peu le profil et vous pouvez avoir une stratégie. Mais encore une fois, c'est le terrain hein, qui va vous demander de vous adapter. Donc c'est pour ça, pour finir de répondre à la question de Xavier, oui, la méthode Cyrano, l'alternance course-marche, de toute façon sur trail, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas telle qu'elle a été écrite parce que elle a été écrite au départ pour plutôt des courses type route ou des parcours qui sont plutôt très réguliers, hein, vraiment dans ce cadre-là. Mais la tendance course marche en elle-même, c'est un peu finalement ce qui permet de passer un trail de la meilleure manière. Oui, j'ai vu des coureurs sur trail qui le font entièrement en courant, parce que ce sont des trails courts, parce que ce sont des trails sur lesquels les montées se gèrent plutôt facilement, parce qu'elles sont pas très raides. Hein. En Auvergne, on a des trails qui sont comme ça. Mais c'est vrai que attention à la dépense d'énergie sur la montée, attention aussi à bien garder de l'énergie pour relancer et pour descendre. Donc c'est pour ça que l'alternance course-marche est très intéressante, mais je le répète, elle est intéressante en trail, elle est aussi intéressante sur route, et je vous répète, je suis sûr, et je le dis, je l'ai dit sur Instagram, en tout cas sur Fred, vous savez le réseau de micro-message là qui ressemble à Twitter, enfin X maintenant, lancé par Instagram, j'ai dit, je suis sûr et certain que beaucoup de coureurs peuvent battre leur record en faisant sur du 5, sur du 10, en faisant de l'alternance course-marche, pourrait battre un record si en fait il faisait comme ça, c'est-à-dire qu'il pourrait courir plus vite et puis en marchant un peu pour faire descendre un peu le rythme cardiaque, le souffle, et en faire ça, il pourrait battre des records sur des distances comme le 5, le 10, le semi-marathon et le marathon. Ça, j'en suis à peu près sûr. Moi, je l'ai testé et je dis hein, sur semi-marathon, si vous préparez ça, par exemple, sur les ravitaillements, on avait parlé notamment avec Bruno Hobby dans un épisode de Sport Nutrition. Bah, le ravitaillement pour boire un coup, si vous prenez les petits verres, c'est quand même plus facile de boire votre coup en marchant. Hein, voilà, c'est plus facile de boire comme ça et c'est déjà on s'en met pas partout. C'est beaucoup plus simple et franchement, vous verrez que vous perdez pas tant de temps que ça. Vous en gagnez probablement et comme le rythme cardiaque rediminue, comme la respiration redescend et tout, il se peut que derrière vous partiez beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, c'est mon conseil. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, me faire vos tests, vous faire vos retours, me dire vous comment vous gérez hein, ces entraînements-là. J'espère en tout cas que Xavier, j'ai répondu à tes questions. J'espère que tu vas préparer, faire un beau défi. Hein. Je ne sais pas quel est ton défi, mais en tout cas que mes conseils vont t'aider à le préparer et que vous tous, en tout cas, ces conseils-là vous aident à progresser, à avoir des stratégies à tester. Je vous ai parlé de certains programmes, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez retrouver, voir de quoi je parle. Et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions sur Instagram, @BertrandSoulier. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes, l'épisode Samy du lundi, l'épisode de mercredi avec un invité et la question de la semaine prochaine. Là encore, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et à très très vite. Ciao ciao mes champions et mes champions.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.